Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Et oui, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Quels sont les apports du nucléaire dans le développement de la RDC? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec le professeur Vincent Lukanda Mwamba, commissaire général à l'énergie atomique et professeur à la faculté des sciences, département de physique à l'université de Kinshasa. Professeur Vincent Lukanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport aux apports du nucléaire dans le développement de la RDC. Appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder un sujet en rapport avec l'examen d'État. Quels sont les critères de composition des questions de l'examen d'État? Il y a eu quelques questions de culture générale en rapport avec certains opérateurs politiques. Une question qui a suscité, qui a fait jaser la toile. Eh bien, nous allons revenir dessus à partir de 11h05 de Kinshasa. Polydor Bansunga. À la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire. Quels sont les apports du nucléaire dans le développement de la RDC? Eh bien, quand on parle de l'énergie nucléaire, on pense directement au domaine militaire. Et pourtant, la technologie nucléaire apporte aussi des solutions aux multiples problèmes humains dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Selon les experts, le nucléaire peut être utilisé dans le domaine médical, dans l'agriculture, dans l'environnement, etc. Alors, quelles sont les différentes applications du nucléaire dans la vie sociale et que faire pour développer la RDC grâce à l'énergie nucléaire? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Vincent Lukanda Mwamba. Il est commissaire général à l'énergie atomique et professeur à la faculté des sciences, département de physique à l'université de Kinshasa. Professeur Vincent Lukanda, encore une fois, bonjour.
Merci, monsieur le journaliste.
Alors, nous parlons aujourd'hui du nucléaire. D'abord, c'est quoi le nucléaire?
Ah, merci beaucoup. Comme le mot le dit, c'est nucleus noyau.
Et c'est une bombe, parce que quand on parle du nucléaire, on pense tout de suite à une bombe.
Non. Bon, ça a servi aussi à l'armée.
D'accord.
Alors, ici, il s'agit d'exploiter l'énergie que renferme un noyau. Un noyau. Vous avez la structure de la matière telle que vous trouvez dans la matière, hein, des molécules, hein, qui ont autour de ils ont des électrons et puis ils ont aussi des noyaux. Mmh. Bon, alors on a découvert que ces noyaux-là renfermaient un grand potentiel d'énergie. Alors les recherches sont parvenues à démontrer, disons, à mettre en évidence, n'est-ce pas, la potentialité que renfermaient les noyaux. Alors, comment on a fait? On a bombardé ces noyaux, de certains...
Au niveau du laboratoire.
Au niveau du laboratoire, okay. Dans les recherches, quand on cherchait... c'était la période où on cherchait carrément comment trouver, augmenter l'énergie, hein, l'énergétique dans le monde. Et dans ces recherches-là, on a trouvé en physique que certaines particules lourdes, hein, du type uranium, thorium, etc., hein, avaient cette particularité que quand on les bombarde avec de neutrons, ce sont des particules qui sont neutres, alors qu'ils peuvent pénétrer dans la matière jusqu'à atteindre le noyau. Quand ils arrivent dans le noyau, ils cassent ce noyau-là, et ce noyau-là peut se casser en deux parties, quasiment égales, mais avec quoi? Avec une production de beaucoup de chaleur.
Une grande énergie.
Une grande énergie. Donc il y a les chaleurs, non seulement les chaleurs, mais à côté de la chaleur, il y a aussi la production de d'autres particules neutres qu'on appelle les neutrons, hein, qui se multiplient. Et en plus, il y a aussi ce qu'on appelle des irradiations. Hein, des irradiations qui ne sont pas perceptibles à l'œil, mais qu'on appelle la radioactivité. Voilà. Alors quand on a découvert ces trois choses-là, on s'est dit, mais tiens, dans ce noyau-là, vous voyez, c'est l'infiniment petit. Hein. Nous partons de l'infiniment petit pour produire une grande énergie qu'on peut utiliser. Ah, c'est ça le départ de ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Alors, en cette période-là, c'était la période où on cherchait comment trouver des solutions dans l'armée aussi. On a de l'énergie là-bas à profusion. Alors, il y en a qui ont orienté ça, hein, vers les applications militaires. C'est ainsi que...
Pour fabriquer la bombe.
Pour fabriquer quelque chose qui peut produire avec des quantités, hein, minimes, mais produire beaucoup d'énergie. Ah, c'était très intéressant. C'est ainsi qu'on a exploité ça pour fabriquer des bombes.
Mais et pourtant, les nucléaires peuvent aussi être utilisés dans la santé, l'agriculture, l'environnement. Dites-nous
alors,
comment.
Vous voyez que nous avons là l'énergie. Hein? Non seulement cette énergie, elle est là, elle est disponible. Elle donne beaucoup de chaleur. Et la chaleur, vous savez, avec la chaleur, nous pouvons produire, nous pouvons chauffer de l'eau. Hein? Et quand vous chauffez de l'eau, vous pouvez aussi avoir de la vapeur. Et cette vapeur-là peut faire tourner des turbines, et puis ça peut, hein,
produire de l'électricité.
Voilà une des applications.
Voilà. Hein.
Mais non seulement ça, mais cette chaleur-là peut être aussi utilisée, hein, pour des traitements de certaines maladies. Il y a aussi les rayonnements qui sortent là-bas, qu'on appelle
les rayons X.
Bon, rayon X, ça fait partie. Hein. Bon, il y a c'est un des types. Mais il y a des rayonnements, il y a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. Hein. Nous n'allons pas entrer trop dans les détails techniques qui vont embrouiller les gens.
Oui, bien évidemment.
Il y a les gamma, il y a les bêta, il y a...
Oui,
etc.,
et tout
etc.,
ça,
etc.,
on ne va rien comprendre. Ça,
oui, je ne vais pas vous embrouiller là. Alors, donc, nous disposons là, à partir du noyau, nous avons de la chaleur qui peut nous aider à produire, par exemple, l'électricité. Nous avons, à partir du noyau, nous avons des rayonnements, hein, qu'on appelle la radioactivité, qui peut nous servir, par exemple, en médecine. Hein, actuellement, vous savez, hein, les traitements de certaines maladies,
hein, comme du cancer,
comme le cancer par exemple, hein, exploitent ces techniques-là. et technique hein, de la radioactivité. C'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Bon, je vais y arriver. Mm. Bon, non seulement ça, mais avec ces techniques-là, avec ces rayonnements, nous pouvons aussi utiliser ça à l'industrie. Nous pouvons aussi utiliser ça dans en agriculture. Et je viendrai là-dessus en détail. Vous voyez ? Mm. Donc, il n'y a pas que l'application militaire. Il y a des applications aussi civiles. Donc, c'est pour dire que le nucléaire, c'est une science hein, qui exploite l'énergie de l'infiniment petit, du noyau, pour pouvoir apporter des solutions au développement socio-économique de la communauté.
Voilà. Bien, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à cette émission. Composez déjà le 081-890-6394. N'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Nous attendons vos questions par rapport aux applications du nucléaire. Nous apprenons que le nucléaire n'est pas seulement utilisé dans les domaines militaires, mais dans la vie sociale, ça peut nous aider. Par exemple, dans l'agriculture, comment utiliser le nucléaire pour développer l'agriculture en RDC, professeur?
Bon, vous savez, en agriculture, il faut rentabiliser, n'est-ce pas, la production. Pour rentabiliser la production, il faut, on peut fabriquer, hein, produire hein, des mutants. C'est-à-dire, on peut, à partir de certaines graines ou de certaines races hein, des plantes, en les bombardant, en les irradiant, hein, on modifie un peu, hein, leur
structure génétique
de manière à les rendre très résistants et très efficaces. Ça va? Voilà une des techniques qu'on utilise. J'essaie d'être le plus simple possible. J'essaie un peu d'entrer, de oui, rester oui. dans la société.
Bien entendu.
Parce que trop de termes techniques, ça embrouille.
Oui.
Ok. Voilà. Voilà.
Donc, on peut avoir, par exemple, des maniocs, des boutures de manioc. Ben, on peut les bombarder.
Oui.
Et on a des boutures qui résistent aux maladies.
Voilà. Hein, qui sont plus résistants, hein, et qui peuvent être conservés pendant longtemps. Bon, non seulement ça. En agriculture, par exemple, vous voyez, il y a des techniques de conservation ou bien de prolongation de la conservation, n'est-ce pas, des produits agricoles. La problématique que nous avons ici, dans notre pays, nous avons beaucoup de produits qui périssent. Hein? Il y a des périodes, par exemple, des SAF. Vous en produisez beaucoup, mais il faut les consommer vite. Et à une certaine période, au-delà de ça, ça pourrit. Bon alors, les techniques que nous avons en nucléaire, ce sont des techniques d'irradiateurs, qu'on appelle les irradiateurs industriels, qui peuvent, quand vous produisez, par exemple, votre SAFU, vous le faites passer dans un irradiateur, hein, d'une manière étudiée, et le SAFU qui vient après l'irradiateur, c'est un SAFU qui peut être conservé pendant plusieurs mois. C'est ce qui arrive, par exemple, les pommes que nous mangeons, hein, que vous allez dans une grande surface,
dans les supermarchés,
vous trouvez des pommes qui viennent de Brésil. Mmh. Hein? Mais vous vous demandez, mais ça vient de loin. Mais ça fait longtemps. Comment c'est encore frais? Et c'est encore consommable. C'est parce que c'est passé par cette technique-là. Vous voyez? Voilà une des techniques qui peut nous aider énormément en agriculture. Nous maîtrisons ça. Au niveau de laboratoire, ou des principes et tout ça, c'est maîtrisé. Nous sommes en train de continuer à étudier encore sur plusieurs spécifiques, sur plusieurs, spécimens de plusieurs produits, quelles sont les caractéristiques de conservation, de prolongation de la durée de conservation par cette technique-là. C'est une technique qui va beaucoup aider. Vous voyez, par exemple, Bukangalonzo,
hein. Le projet Bukangalonzo.
Un grand projet, très, très ans.
Des tristes mémoires.
Bon, mais je crois qu'on va relancer ça, hein. Ça vaut la peine, hein. Et même ce qui se passe là, on envoie les jeunes de Kuluna, là, c'est où ça?
À Kanyamakassese.
À Kanyamakassese, vous voyez, on produit beaucoup de maïs.
Oui.
Hein, on a déjà des produits ici. Mais si ces maïs, hein, pouvaient aussi, hein, passer par un irradiateur industriel, on les conserverait pendant longtemps et on servirait la population pendant longtemps. Vous voyez? Parce que si ces maïs-là, hein, restent toujours dans dans cet état-là de production qu'on a impacté sur le, sans traitement.
Ça va vite pourrir.
Ça va vite pourrir et ce sont des pertes. Voilà une technique très très importante qu'on utilise en nucléaire, hein, pour aider les populations à conserver pendant longtemps les produits agricoles. Voilà, ça c'est un exemple.
C'était un exemple. Nous parlons des apports du nucléaire dans les développements de la RDC. Le sujet vous intéresse, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Alors professeur, comment le nucléaire a été introduit en République démocratique du Congo?
Ah, c'est une belle histoire. Notre pays, c'est un grand pays. Vous savez, notre pays regorge de plusieurs ressources minérales. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Bon, c'est grâce, n'est-ce pas, à cette ressource uranium qui a été exploitée par les grandes puissances à Chincolobri, n'est-ce pas? Bon, vous savez, ils pouvaient trouver de l'uranium ailleurs, hein, mais ils ont préféré l'uranium du Congo parce que présentait une bonne qualité.
Pour fabriquer la bombe.
Bon, c'était pour avoir des réserves, hein, nécessaires pour continuer leurs recherches dans un programme qu'on appelle un grand programme qu'on appelait le programme Manhattan. En fait, c'était un programme qui cherchait les voies et moyens comment mettre fin, n'est-ce pas, à cette guerre mondiale qui commençait à prendre des dimensions très inquiétantes avec les kamikazes et les gens, la chire à canon là, hein, etc. Ça devenait très très inquiétant. Alors, on a exploité, n'est-ce pas, notre uranium pour fabriquer la première bombe, n'est-ce pas, de qui a détruit Hiroshima
et Nagasaki.
Et Nagasaki avec le plutonium, oui, voilà, Nagasaki. Bon, alors, moi j'ai dit que ce n'était pas ça la grande finalité du nucléaire. Ça, ce n'était qu'un aspect qu'on a exploité. C'est presque un accident. Parce qu'on a découvert que, tiens, il y a une grande concentration d'énergie dans une masse infiniment petite. Donc, quand on a un kilo, on va faire une grande bombe qui peut faire un effet. Vous voyez, la guerre, c'est détruire. Hein, ça va? Bon. Moi, je considère ça que le Congo a contribué, n'est-ce pas, à imposer la paix dans le monde. Ce n'est pas que le Congo est venu détruire. On a utilisé l'uranium de notre pays pour imposer la paix dans le monde. Donc, il y a cet aspect positif. OK? Bon, alors, après ça, quand on a constaté l'ampleur des dégâts, alors, il y a eu inquiétude. Alors, le monde entier s'est organisé et dit, nah, ça, si nous laissons cette technique à la portée de tout le monde, un jour, on va détruire l'humanité. C'est ainsi que on a créé l'Agence internationale de l'énergie atomique pour un peu réguler, n'est-ce pas, l'utilisation de cette technique.
De cette énergie, parce qu'elle est très dangereuse.
Bien, c'est comme ça que ça a commencé chez nous avec Chincolobri. Finalement, le savant Gilon, Monseigneur Gilon, paix à son âme, hein, c'est quelqu'un qui adorait notre pays. C'est celui qui a construit l'université de Kinshasa. Et c'est celui qui a construit aussi, n'est-ce pas, le premier centre nucléaire, n'est-ce pas, en Afrique. Alors, il avait cette obsession de la grandeur de notre pays, hein, et en lui dotant, par exemple, la plus grande université en Afrique centrale, hein. L'Ovanium, c'était, et une des grandes. Université. Bon, et puis, il a usé de sa diplomatie, il a dit, mais non, ce Congo ne mérite pas de rester parmi les pays qui n'ont pas de grandes visions. Il faut que ce soit un pays, hein, puissant, très puissant. C'est ça, c'est ça son obsession. Luc, alors, des éléments, oui,
c'était un physicien.
Oui, c'est un physicien, comme moi. Okay. J'ai emboîté ce pas parce que j'ai lu beaucoup sur lui et il m'obsédait.
D'accord.
Bon, alors, il a utilisé sa diplomatie pour obtenir, n'est-ce pas, des grandes puissances, qu'on puisse aussi donner la chance à notre pays d'accéder, n'est-ce pas, à la technologie de pointe de ce moment-là, hein, même maintenant, hein, qu'est le nucléaire. Il a usé sa diplomatie en disant que voilà, en récompense de tout ce que le Congo a offert, hein, pour qu'on impose la paix dans le monde, est-ce qu'on peut pas lui permettre d'accéder aussi à cette technologie de pointe pour que il puisse aussi se développer? C'est comme ça que nous avons accédé à ça. On a acheté, nous avons acheté, hein, l'on a pu faire acheter le tout premier réacteur nucléaire, n'est-ce pas, qu'on a installé en Afrique centrale, qu'on appelle Trico 1.
Installé ici au Congo.
On a installé ça à la sur le site du campus de Kinshasa, n'est-ce pas, hein, derrière la faculté des sciences. Ça, c'était le tout premier réacteur, un petit réacteur de 50 kilowatts qu'on a fait, qui a fait quand même ses preuves, parce qu'avec ça, on faisait beaucoup de recherches, hein, et on faisait beaucoup d'applications. Et puis, les pays africains se sont réunis en 78, je crois. Ils se sont réunis, une réunion de l'OUA, et ont constaté que le Congo avait déjà accédé à cette technologie de pointe, et que le Congo était le premier pays à avoir le premier réacteur
nucléaire. Un instant, alors, professeur, on va accueillir les auditeurs.
Oui.
Nous avons un premier auditeur en ligne, Fiston Lumanda Degbadolité. Nous parlons des apports du nucléaire dans le développement de la RDC. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081 890 63 94.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Quels sont les apports du nucléaire dans le développement de la RDC? Fiston, vous êtes à Gbadolité, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, en tout cas, je suis très impacté par votre sujet du jour. Et comme vous le savez, nous avons eu que des côtés négatifs de l'utilisation du nucléaire. Et par rapport à ce que l'invité est en train de démontrer, vraiment, je suis très, très ravi. Je voudrais, à cette occasion, profiter pour lui poser deux petites questions. La première question, de savoir, parce qu'il a dit qu'on peut utiliser le nucléaire dans l'agronomie, par exemple. Alors, j'aimerais lui poser la question, est-ce qu'après avoir utilisé le nucléaire dans l'agronomie, après, il n'aura pas des effets négatifs. Il n'aura pas des effets négatifs à l'échelle. Et deuxième question, pourquoi il a attendu jusqu'à seulement aujourd'hui prendre de telles mesures ou de telles études pour dire qu'on peut, que le nucléaire peut être utilisé pour la santé, par exemple, même dans l'environnement? Est-ce qu'il y a des études menées sur ça et des précautions afin que cela ne puisse pas avoir des impacts sur la vie des gens? Par exemple, il a parlé, il a donné beaucoup de choses. En Europe, par exemple, il a toute une condition. Est-ce qu'ici, il y a une condition? C'était ça ma question.
Bien, merci Fiston Lumanda de Gbadolité. Professeur, vous avez la parole.
Merci beaucoup, je suis très ravi de répondre à notre frère Fiston de Gbadolité. Merci de nous suivre. En fait, en agro, hein, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les mutations. Hein. Les mutations n'ont pas d'effet, hein, d'effet négatif sur le produit qui est traité. Ça va. Donc, si ça a un effet négatif, là, on écarte. De toute façon, le travail est fait en sorte que le mutant qu'on produit, il doit présenter des caractéristiques qui sont positives pour être utilisé. Donc, il y a une certaine éthique, hein, qu'on suit. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus.
Il n'y a pas des effets négatifs.
Non, non.
Vous allez manger, par exemple, le manioc qui a subi qui a été bombardé, plus tard, les gens ne vont pas développer des maladies.
Non. C'est-à-dire que, bon, vous savez, par exemple, on a eu des semences améliorées. En fait, nous faisons des semences améliorées. OK? Alors, par exemple, vous avez votre graine, vous l'étudiez, vous enlevez ce qui empêche le développement visé. Cela ne change rien au produit. Vous voyez? Mais finalement, ça améliore, n'est-ce pas, la qualité du produit. On n'ajoute rien. On ne vient pas... Bon. Et puis, le produit qui est traité n'est pas radioactif. Ça va?
Il n'y a pas de radioactivité.
Non. Juste après le traitement, et puis voilà, il n'est plus radioactif. Ça va? Donc on peut le consommer sans problème.
Il dit pourquoi avoir attendu si longtemps pour venir nous informer que le nucléaire peut être utilisé. Il y a des applications dans plusieurs domaines de la vie et de tous les jours.
Justement, c'est mieux vaut tard que jamais. De toute façon, nous avons décidé, nous, à notre niveau, de approcher la population. Parce que jusque-là, nous travaillons dans un système... c'est quand même un centre stratégique. Il y a des aspects très, très sécuritaires. Et il y a des aspects aussi stratégiques qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Vous comprenez? Mais les applications qui touchent la population, maintenant que nous sommes assez avancés dans les études et que nous avons des résultats qui parlent et qui démontrent notre implication dans la vie de chaque jour, nous devons vulgariser. Et c'est comme ça que nous avons pris la décision de multiplier les informations.
Les informations autour de ça. Et il y a même un auditeur qui nous a, un internaute, Willy Bilolo de Kananga, qui dit, je vais demander à l'invité quels efforts notre gouvernement fournit pour mettre cette énergie nucléaire à la portée de tous.
Ok. Bon, les efforts de notre gouvernement sont là, n'est-ce pas? Premièrement, notre gouvernement nous a doté d'un réacteur nucléaire. Non seulement d'un réacteur, il y a eu le premier réacteur qui a été démantelé, et maintenant on avait acheté un autre réacteur plus puissant du temps du président Mobutu. On a acheté, avec l'argent du contribuable, un réacteur plus puissant qui
fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Oui, qui a eu un arrêt technique suite à un problème de modernisation. Mais pour le moment, nous avons obtenu du gouvernement, n'est-ce pas, qu'on va moderniser le pupitre de commande, parce qu'il y a un pupitre de commande qui est devenu obsolète dans le sens que, il est resté analogique.
Il faut le moderniser. Qu'il devienne numérique.
Voilà.
Digital.
Nous sommes là et nous avons l'appui. Heureusement, nous avons l'appui de l'autorité suprême, le président de la République, qui nous a promis de nous soutenir pour que on puisse remettre notre réacteur
en marche
en le modernisant.
Une question d'un auditeur.
Les efforts donc sont là.
Sont là, oui.
Le gouvernement ne nous laisse pas. Et nous-mêmes aussi, nous faisons des efforts. Bon, si vous voulez détails, je peux vous les donner, mais
d'accord,
le temps étant limité.
Je reviens à vous, le temps d'accueillir les auditeurs. Bakemba nous appelle de Mbandaka. Benjamin de Lubumbashi. Bakemba, bonjour. Bakemba, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Bien, il n'est plus là. Benjamin de Lubumbashi. Ah, Bakemba, vous êtes là. Quelle est votre question?
Oui, allô?
On vous écoute.
Allô, bonjour, Gia. Bonjour, l'invité. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent.
Oui, merci. Quelle est votre question?
Bon, ma question est celle-ci. Bon, je voulais un peu parler sur la question depuis Badolik et sur l'environnement. Est-ce que vraiment les projets étaient à la table qu'on puisse étudier? Est-ce qu'il y avait vraiment des spécialistes qui ont déjà étudié ce projet-là? Parce que le projet est intéressant. Mais je me demande un peu sur les effets néfastes que sur l'environnement.
Voilà, il y a toujours des craintes par rapport aux effets néfastes. On va accueillir Germain Mukendi de Kinshasa. Bonjour Germain.
Bonjour Bien-Aimé. J'ai une petite question que je vais poser au commissaire général de l'énergie atomique.
Oui.
Je suis de l'équipe des gens qui ont démarré le projet NDT au département de physique au centre nucléaire avec KBIA et Katombe qui n'est plus. En paix.
Oui.
J'ai fait plusieurs clichés sur le cordon de soudure, entre autres le poton d'accostage qui est à Ongongo, c'est moi qui ai contrôlé ce soudure-là. On était sur les pipelines avec les pétroliers. Alors, j'ai toujours eu un point qui me préoccupait. Quand on prend un cliché sur un cordon de soudure, donc si la conduite contient un liquide, il arrive que les clichés soient toujours flous. Quel est le phénomène qui fait qu'il y ait obstruction? Puisque même si vous prenez un cliché sur l'aile d'un avion qui contient le carburant, vous n'aurez jamais les résultats escomptés. Alors, comment on peut interpréter ce phénomène-là? Puisque je sais bien que le contrôle non destructif existe aussi du côté recherche et du côté application industrielle. Alors, j'aimerais voir quand même, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Donc mon problème c'est de savoir qu'est-ce qui empêche que si la conduite a un liquide à l'intérieur et vous prenez le cliché sur un cordon de soudure, le film reste flou.
Bien.
Bon, merci beaucoup.
Un instant, c'est tellement technique, nous on comprend rien.
Oui, je peux simplifier.
Le temps d'accueillir Benjamin de Lubumbashi. Oui. Bonjour Benjamin.
Merci beaucoup pour m'avoir associé dans la thématique de ce jour. Je suis d'abord notre invité du jour. Ma question était seulement de savoir s'il est vrai que le projet de l'environnement était sur la table. Alors, pourquoi notre environnement est toujours en train d'être pollué par des étrangers, nous, les bas peuples qui en souffrent toujours, et notre gouvernement, nos autorités sont là présentement sans même penser à régulariser la situation de l'environnement. Ce n'est pas bien.
Vous parlez de l'environnement du Katanga où il y a l'exploitation minière, c'est cela?
Mais oui.
D'accord. Merci. La pollution, voilà. Merci d'avoir appelé. Il y a également Fabien Soul depuis Lubumbashi qui nous dit, vu les effets négatifs liés au rayonnement gamma négatif émis par différents minerais exploités dans l'ex-Grand Katanga, qu'est fait le commissariat général à l'énergie atomique pour protéger la population. Pourquoi ne retrouvons-nous pas le commissariat général à l'énergie atomique dans les hôpitaux de Lubumbashi pour contrôler les émissions des rayonnements émis par certains appareils radiologiques? Voilà, c'est la question de Fabien Soulou de Lubumbashi. Professeur, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Bon, on parle de NDT. NDT, c'est non-destructive technique. Hein? C'est une technique non-destructive. Ok. C'est une technique qui nous permet de contrôler des structures sans pour autant, n'est-ce pas, les endommager ou bien les déstabiliser ou les mettre en dysfonctionnement. Donc, on peut... C'est en fait une analyse in vivo, hein, si vous voulez. Hein? Bien. Cette technique-là, elle est une technique qui avance et qui aujourd'hui est utilisée à l'industrie abondamment. OK? Et là, nous sommes, comme vous voyez, hein, c'est une technique que nous développons chez nous. Vous voyez encore l'apport du nucléaire. OK. Avec cette technique-là, évidemment, Monsieur Mukendi dit que il a fait plusieurs clichés. Merci beaucoup, Monsieur Mukendi, d'avoir évolué avec nous. Hein, et vous êtes toujours les bienvenus. Bon, écoutez, ça dépend du protocole. Le résultat que vous avez, ça dépend du protocole que vous avez mis en place. Hein, et il faut étudier chaque cas par cas. Si le protocole n'a pas tenu compte de certaines faiblesses ou de certaines choses, alors là, vous aboutissez à un cliché flou. Mais si vous étudiez très bien, vous aménagez bien votre protocole, vous aurez un cliché très clair qui peut vous donner des renseignements dont vous avez besoin.
Voilà, ça c'est trop technique, nous, oui, oui. On comprend rien là-bas.
Monsieur Benjamin et Monsieur Fabien, bon, Monsieur Benjamin lui parle de la pollution en fait, hein, la pollution environnementale. Effectivement,
c'est avec l'exploitation minière au Katanga.
Oui, c'est un sujet qui nous préoccupe et nous sommes présents. Hein, nous sommes, chaque fois qu'il y a un problème de pollution de nos rivières, nous avons une antenne au Katanga, qui travaille là-bas, non seulement à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, nous sommes présents. Et chaque fois, nous sommes aussi sollicités par l'État, qui, quand il remarque une pollution, nous envoyons nos équipes qui vont prélever des échantillons et qui font les analyses et qui font des propositions, au gouvernement. Mais nous, nous n'avons pas un caractère coercitif, Nous, nous sommes des, comment dirais-je, on nous invite pour étudier un problème, proposer des solutions, et puis il y a quand même une autorité réglementaire, du nucléaire, qui a un pouvoir coercitif.
Vous dépendez du ministère de la recherche scientifique?
Nous dépendons du ministère de la recherche scientifique. Ça va? Ok. Bon, alors, en ce qui, donc, nous sommes là.
Quelqu'un a dit, est-ce que dans les hôpitaux du Katanga, vous pouvez pas être présent?
Oui.
Quand les malades arrivent, ils ont des problèmes comme ça, voilà, vous pouvez aussi intervenir.
Voilà. Une de nos activités, c'est la protection, n'est-ce pas, des populations contre les effets, nuisibles de rayonnement ionisant. Je parle bien des rayonnements ionisants. Parce qu'un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement, quand vous le voyez pas, mais quand il vous traverse, il dérange votre structure. Il dérange votre structure. C'est comme vous avez parlé des rayons X. Bon, c'est un rayonnement, quand on ne prend pas toutes les précautions, il peut déranger votre structure. C'est pour cela que...
Donc les minéraux, là aussi, dégagent des...
Il y a des minéraux. Le problème est que notre pays exploite beaucoup de mines, mais il y a des régions qui sont à occurrence uranifère, dans lesquelles on fait des... Par exemple, dans le sud, dans le Katanga, il y a beaucoup de poches, où on peut rencontrer, tout en cherchant le cobalt ou le cuivre et tout ça, on trouve des poches d'uranium. Donc on doit vivre avec. C'est pour cela que nous formons les miniers régulièrement chez nous pour leur donner des notions sur ce qu'on appelle la radioprotection. Comment vivre avec ces rayonnements pour bien se protéger et ne pas avoir des effets négatifs. Bon, en ce qui concerne les hôpitaux, nous sommes sollicités, mais au niveau du Katanga, on n'est pas encore très présent dans ce domaine-là de contrôle des appareils médicaux. Mais au niveau de Kinshasa et les environs, nous sommes là parce que nous suivons tous ceux qui utilisent, n'est-ce pas, les appareils qui émettent des rayonnements ionisants. Et puis nous pouvons leur donnons ce qu'on appelle les dosimètres. Les dosimètres, ce sont des pochettes comme ça qu'ils doivent porter, qui après un certain temps ils nous remettent. Nous suivons les doses qu'ils ont emmagasinées pour que voir si ça n'atteint pas une dose dangereuse. Et quand c'est le cas, après le suivi, nous pouvons savoir, tiens, ou bien c'est l'appareil qui est défectueux. Alors en ce moment-là, nous apportons quelques conseils et corrections. Mais il y a aussi l'autorité réglementaire qui doit obliger tous ces hôpitaux-là de se faire contrôler par nous, qui sommes opérateurs.
Qui ont des appareils, des rayons X, etc.
Ils doivent se faire contrôler par nous, qui sommes opérateurs. Et à la fin, nous leur donnons des certificats qui certifient que bon, nous sommes passés, on a contrôlé, l'appareil est en bon état, ou bien il faut changer ceci. Nous le faisons. Mais on doit étendre ça.
Mais pas à grande échelle.
Oui. On est en train
de vous étendre.
De nous étendre. Bientôt. Oui. On a fait une grande commande des dosimètres qui va arriver. Aussitôt qu'elle arrive, on va servir d'abord les miniers et puis on va servir aussi les hôpitaux. Il y a un grand travail à faire. Mais
professeur, un instant, on va accueillir trois auditeurs. Daniel Vangui de Beni, Glody de Bandundouville et Thierry Missami de Kinshasa. Daniel, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Quelle est votre question, rapidement?
Merci beaucoup. Je suis Daniel Vangui à partir de Beni. J'aimerais dire seulement une petite chose. Eh bien, ce n'est pas une question comme telle. C'est juste un avis, une contribution.
Oui.
En fait, la question du radioactif, du nucléaire, c'est très prometteur pour l'essor du pays. Mais vous savez, moi particulièrement, je garde une opinion plutôt particulière. Je trouve que notre pays, il peut avoir beaucoup de belles initiatives, mais le problème, c'est que nous sommes excellents dans le non-suivi rigoureux et du programme d'une bonne continuation. Et voilà, ça crée en moi une inquiétude. Je me dis que nous ne sommes pas encore prêts pour de telles initiatives. Vous savez, il suffit qu'on prenne un compatriote et qu'on lui dise de gérer le projet du Tangalonde, vous savez comment ça va finir. Qu'on prenne un compatriote et dire, voilà, gérer le secteur d'éducation du pays et il va finir avec des millions. Et ce problème du nucléaire-là, il a beaucoup de désavantages aussi, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher, présenter seulement la belle face des choses et l'autre face-là qui est dangereuse, essayer de dissimuler. Il arrive même que des industries du nucléaire explosent d'elles-mêmes. C'est un danger pour la population. Et dans un pays tel que le nôtre, que nous connaissons très bien, s'il n'y a pas une bonne politique de suivi et de contrôle rigoureux, c'est un problème qu'il ne faut pas négliger. Mmh. Et moi, je pense tout simplement, presque, nous ne sommes pas encore prêts pour ça. C'est très charmant, c'est très bien, mais nos priorités sont encore la sécurité, la paix. Je suis des bénis, vous savez, bénis, tout rire, tout consort. Et l'éducation, on dit que ça est en train de diminuer, ça baisse depuis des années. Voilà que nous sommes en train de devenir des intellectuels, mais qui ont...
Voilà, Daniel, d'après vous, le nucléaire, c'est pas une priorité pour le moment.
Non, 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 nous ne sommes pas encore bien prêts et adaptés pour de telles initiatives.
D'accord. Glody, vous êtes à Bandonouville, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à monsieur le professeur, bonjour à tout le monde qui nous écoute à partir de ce moment.
Nous parlons des apports du nucléaire dans le développement de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, merci pour la parole à Cordeau. Je pense que le nucléaire a vraiment l'importance dans notre pays. Mais ce que vous devez savoir, nous devons parler du nucléaire dans deux sens. Généralement, chaque chose a toujours son opposé, a toujours sa contradictoire. C'est bien, on peut parler de nucléaire actuellement, mais quel est l'avantage économique que ça peut apporter aux Congolais? J'aimerais que le professeur peut nous expliquer en profondeur, afin qu'on puisse bien comprendre les choses. Parce que il est vraiment un peu théorique, hein. C'est bien, il est en train d'expliquer les choses qui sont sérieuses, qui sont vraies, mais il est vraiment théorique, il peut vraiment entrer en profondeur. Quelle est l'importance vraiment économique que ça peut apporter à nous, Congolais? Et si les professeurs nous expliquent ça, si c'est possible, il peut aussi remonter ces problèmes-là au niveau du gouvernement. Je pense que le gouvernement congolais peut voir aussi comment faire afin d'aider aussi la paisible et population congolaise. Parce que, vous savez, dans notre pays, nous avons des experts presque dans tous les domaines. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on est théorie au lieu d'être pratique. Mmh. C'est ça ce que j'ai pour vous dire pour aujourd'hui. Si les professeurs peuvent être pratiques,
d'accord,
je pense que ça peut nous aider les Congolais. Je dis et je vous remercie.
Merci Thierry. Missami, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le présentateur de l'émission.
Quelle est votre question, Thierry?
Moi, je vous appelle juste pour avoir un éclaircissement sur l'apport du nucléaire dans le développement du pays. Mmh. Alors, dans l'une des interventions du professeur, dans le domaine qui est le sien, il préconise les recours à l'électronucléaire donc, pour contribuer à l'amélioration du taux de desserte en énergie électrique que connaît les pays. Alors, sur ce, je voudrais qu'il nous présente clairement et de façon succincte les atouts de l'électronucléaire comparativement à l'hydroélectricité pour laquelle les pays disposent d'énormes potentialités à travers les territoires nationaux congolais. Et quelles sont les faiblesses de l'hydroélectricité qui l'amènent à pouvoir proposer les recours au nucléaire au-delà de l'aspect mix énergétique que l'on peut évoquer? Donc, voilà ma préoccupation.
Merci Thierry. Professeur Vincent Lukanda, à vous la parole.
Merci beaucoup, il y a beaucoup de questions.
Oui, beaucoup de questions. Les gens bon, sont intéressés par cette
question.
Oui,
nucléaire. C'est très bien, je suis très content. Mmh. Je crois que ça montre l'intérêt que nous avons. En fait, notre ami de BNI, c'est Daniel. Hein.
Daniel, voilà.
Je crois que il doit comprendre que toute technique a ses avantages et ses désavantages. S'il a peur des explosions et tout ça qui peuvent arriver, alors qu'il ne prenne pas l'avion non plus. Vous savez, l'avion, hein, c'est quelque chose de très utile, hein, mais nous savons quand il y a un accident d'avion, c'est la catastrophe. Et chaque accident, c'est une leçon pour nous, pour apprendre comment améliorer, comment éviter ces accidents. Bon.
Il pense peut-être à l'explosion de Tchernobyl.
Oui, Tchernobyl, c'est aussi... vous savez, En nucléaire, on ne prend pas n'importe qui et on est très très rigoureux. Il suffit qu'il passe au centre nucléaire, il verra. Nous sommes très rigoureux et très très exigeants. Même dans les recrutements, même dans la discipline, etc. Tout ça, c'est pour minimiser les risques d'accident. Bon, donc nous y travaillons et c'est ça les principes que nous faisons. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il peut y avoir des explosions, mais même avec le carburant, il y a toujours des explosions. Mais ça dépend de la discipline et de...
peut-être parce que les dégâts que causent les nucléaires, c'est inimaginable par rapport à d'autres accidents.
C'est vrai, mais il y en a combien? Quand vous comptez les accidents nucléaires, ils sont vraiment minimisés. C'est parce qu'on y travaille sérieusement et on évite. On a l'objectif accident zéro. Et quand on travaille dans ce sens-là. Donc, nous sommes très méticuleux. Qu'il ait ces apaisements, le Congo n'a jamais eu d'incident depuis que nous avons commencé dans le nucléaire. Ça montre que la qualité de nos chercheurs est supérieure. Et que nous tenons vraiment à une formation continue de nos chercheurs. Nos chercheurs voyagent beaucoup et on les forme en continu. Donc ça, il peut avoir des apaisements.
Et vous-même, vous avez été formé en Belgique?
Moi-même, j'ai d'abord été formé au campus. Aussitôt que j'ai terminé, mon mentor, le professeur Malou m'a remarqué et m'a envoyé en formation. Je suis allé en Europe et je n'ai pas voulu rester en Europe. J'ai préféré rentrer pour servir le pays. Et je ne regrette pas du tout. Et je suis en train de servir le pays avec beaucoup d'amour et beaucoup d'abnégation.
Glody veut savoir quels sont les avantages économiques. Il veut insister là-dessus.
Il est pratique, c'est tout à fait bien. Les avantages économiques sont énormes. J'ai parlé de l'agriculture. D'accord? J'ai parlé ici des techniques qu'on peut proposer au gouvernement pour avoir des grands irradiateurs industriels qui vont booster, qui vont préserver nos produits agricoles et aider les populations.
Même dans un contexte de changement climatique, le nucléaire peut...
Oui, sachez que, les avantages économiques sont... Je vais combiner, par exemple, on a parlé de l'électronucléaire. L'électronucléaire, pourquoi j'insiste sur l'électronucléaire, je crois que c'est parce que ce qu'on appelle notre mix énergétique, il est déséquilibré.
On est beaucoup plus
dans l'hydro que... Et non seulement dans l'hydro, on est plus dans le bois. Quand vous regardez, grand pourcentage, c'est la déforestation, avec toutes ces conséquences que vous connaissez. Et les conséquences de ça sont liées, n'est-ce pas, au changement climatique. Et ces changements climatiques peuvent aussi déstabiliser nos rivières. Actuellement, vous voyez, nous sommes inquiets de cette chute des niveaux du fleuve Congo, qui ne fait que chuter. Il faut pas qu'on se leurre, le niveau du fleuve n'est pas aussi constant qu'on le pense, mais la tendance est la baisse.
Surtout qu'il y a plus de précipitations depuis un moment.
C'est la conséquence des changements climatiques. Donc, on a l'hydro, c'est vrai, mais il faut pas négliger l'électro. L'électronucléaire, quels sont ses atouts? L'électronucléaire, c'est que il est totalement indépendant. C'est une énergie propre qui est totalement indépendante des aléas climatiques. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente et tout ça, je peux produire mon électricité avec mes barres d'uranium. Vous savez? Alors, qu'il y ait de l'eau ou pas, moi, mon électricité, je peux le produire. Alors, quel autre avantage? Actuellement, c'est que on est maintenant dans la phase où on est en train de faire des centrales électronucléaires modulaires. Maintenant, on est dans la phase où on fabrique des modules, qui peuvent être adaptés à la demande spécifique d'une région. Alors, vous voyez l'avantage? L'avantage est que, avec l'hydro, vous devez construire des lignes, à travers le pays et tout ça, qui coûtent très cher. hein, lignes de transport. Hein.
Oui.
Bah, tandis qu'avec l'électro, avec les méthodes actuelles, qui sont les méthodes de modules, vous pouvez aller dans des régions même reculées, avec des frais de transport de courant très réduits, hein, et vous résolvez les problèmes, n'est-ce pas, d'énergie dans des régions reculées, avec tout ce que ça a comme impulsion économique. Parce que celui qui a l'énergie, c'est un pôle de développement. Si vous allez dans la grande forêt, là, isolée, vous avez votre module électronucléaire, vous placez là-bas pour les besoins de la population, ah, vous créez un pôle économique.
Bien entendu.
Voilà, vous voyez, oui. C'est très, très avantageux. Alors, je ne dis pas qu'il faut exclure l'hydro. Là où on peut exploiter les deux, ou les trois, ou l'éolienne et tout ça, ça dépend. Notre pays est tellement vaste, et les besoins sont tellement immenses, parce que nous devons industrialiser notre pays pour que nous puissions apporter le développement. Alors, il ne faut pas négliger l'électronucléaire. Surtout la méthode actuelle qui est la méthode des SMR, hein, les Small Modular Reactor.
Professeur, on est arrivé presque à la fin de cette partie. Quels sont les défis du nucléaire aujourd'hui à RDC?
Bon, les défis du nucléaire, il y en a. Vous savez, actuellement, je vous ai dit, nous dépensons des millions pour envoyer nos gens à l'étranger aller traiter les cancers. Et pourtant, nous avons un projet ici qui est déjà bien ficelé pour créer un centre, hein, un grand centre diagnostique, hein, et qui fait de la radio diagnostique. Non seulement de la radio diagnostique, mais de la radiothérapie, le traitement des tumeurs, des cancers. Voilà. Ça va rapporter beaucoup.
Aujourd'hui, on n'a qu'un seul centre.
Ouais.
Qui traite ça dans notre pays.
Ouais, il n'y a qu'un un petit centre, c'est le docteur Soulou, je crois.
Oui.
C'est nettement insuffisant. Hein? Mais Soulou ne fait pas tout. Hein? Mais nous avons chez nous, au centre nucléaire, tout un département, qu'on appelle le département de médecine nucléaire, hein, qui fait. On a même acheté, on l'a équipé, on a acheté des radiocaméras tout neufs, etc., pour remplacer les anciens, où nous faisons de la scintigraphie, c'est-à-dire les dépistages de tout ce qui est cancer avec des méthodes nucléaires. Et ça, nous ne pouvons pas nous en passer, parce que c'est l'actualité, c'est la méthode. Hein. Donc voilà un avantage, un atout, un défi que nous devons offrir.
Donc il revient au gouvernement de
nous soutenir
de vous
dans
soutenir,
ce projet-là,
de mettre beaucoup plus de moyens
et de nous donner l'appui nécessaire. Mais là, je ne m'inquiète pas beaucoup parce que le président de la République est conscient de ça et il nous a promis son soutien dans ce domaine-là. Et puis
aujourd'hui,
vous
autofinancez, vous financez vous-même vos activités.
Oui, nous faisons un peu de l'autofinancement, mais nous dépendons aussi de l'État. L'autofinancement est dû à quoi? C'est, vous voyez, nous aidons l'État à sécuriser ses produits miniers. Vous voyez, les minerais qui sortent au Katanga doivent être suivis, hein, on fait la traçabilité de nos minéraux.
Professeur, on est arrivé à la fin. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement.
Ça va.
On termine avec la question d'un auditeur. La différence entre l'atome et le nucléaire, en quelques secondes.
Bien. Le nucléaire, c'est le noyau. L'atome, c'est un peu plus. Vous savez?
Oui.
Vous voyez? Dans le nucléaire, on est vraiment dans l'infiniment petit. Et dans l'atome, on traite un peu plus. Hein, plus que là, on injecte même des électrons et tout ça, etc.
Ouais.
Vous voyez? C'est cette différence que je peux dire. Hein, du point de... Bon, bombe atomique, évidemment, la bombe atomique utilise, n'est-ce pas, hein, l'énergie produite par les noyaux. Hein, alors, pour faire des dégâts au niveau.
Des dégâts énormes.
Des dégâts énormes.
Hein, tandis que la bombe nucléaire, les dégâts sont...
Non. Bon, c'est presque la même chose.
C'est presque,
hein, la même chose. Je ne vais pas entrer trop dans les détails physiciens.
D'accord.
Hein, physicien, bon, voilà.
Merci, professeur Vincent Lukanda Mwamba. Je rappelle que vous êtes commissaire général à l'énergie atomique et professeur à la faculté des sciences, département de physique à l'université de Kinshasa. Vous reviendrez. Je pense que vous allez revenir prochainement pour nous nous parler en long et en large des apports du nucléaire dans les développements de la RDC. Nous allons suivre tout à l'heure les informations fidèles auditeurs et on va se retrouver juste après pour la deuxième partie de l'émission Capi Service.